C'est Léon Daudet qui traitait Ernest Renan de « Dieu de la Troisième République ». Or, de 1875 à 1905 environ, Renan a été Dieu, mais parfaitement le Dieu de la Troisième République. Je l'ai vu adorer et encenser, j'ai vu se prosterner ses lévites. Quelqu'un qui, à cette époque, aurait écrit ce que j'écris ici, eût passé pour un sacrilège ou un démon. La renanolatrie a peut-être dépassé encore en intensité la hugolatrie, et l'on se moque des fétiches des nègres. Il était devenu même populaire, car la vraie forme de la gloire est d'être admiré sans être lu, ce qui supprime les réserves et réticences. Les cochers de fiac du quartier des écoles célébraient Renan chez les marchands de vin et de tabac, et j'entendis un jour l'un d'eux se féliciter de ce qu'il en avait bouché un coin au pape. Un homme politique connu, à qui je citais le fait, en concluait à la diffusion de la haute culture dans les masses. C'était évidemment une déclaration malveillante sous la plume du pamphlétaire de l'Action française en 1922 dans le stupide 19e siècle. Renan, après Hugo, est le symbole, le résumé de ce siècle stupide et de sa fin, et vous voyez les dates, entre la consolidation de la République en 1875, le 16 mai, et la séparation en 1905. Après la réforme intellectuelle et morale, 1871, c'est le temps des souvenirs d'enfance et de jeunesse et des drames philosophiques. Caliban, l'eau de Jouvence, le prêtre de Némie, l'abbesse de Jouarre. C'est le temps du mandat d'administrateur du Collège de France qui a été évoqué hier. Renan est une autorité du pays, un personnage public, un saint laïc. Il est l'auteur d'un dialogue des morts qui est représenté à la Comédie-Française le 26 février 1886, pour le jour anniversaire de la naissance de Hugo. C'est ce qui explique ce parallèle fait par Daudet. Après un autre dialogue à la Comédie-Française, le jour de l'an 1886. Tout cela témoigne de son omniprésence qu'on n'appelle pas encore médiatique. Le jugement de Daudet en 1922 mérite d'être comparé à celui, plus généreux, bien sûr, d'Albert Thibaudet, en 1936, dans son Histoire de la littérature française. Durant les 30 dernières années du XIXe siècle, le tétrasyllabe Taine et Renan rendait dans la langue des lettres un son indivisible, comme Tarn et Garonne. C'était le nom des deux maîtres associés et complémentaires d'une génération, le nom d'une magistrature collégiale. Vous voyez l'allusion parodique au tétragramme, le nom de Dieu, ce qui nous renvoie aussi, à la manière de Thibaudet, au Dieu de la République. Et c'est la même chronologie, les débuts de la Troisième République, son installation, cette République qualifiée d'athénienne, d'opportuniste, de radicale. Pourtant, en 1936, pour Thibaudet, ce magistère est clos. La vie de Jésus, dit-il, est devenue illisible. L'histoire des origines du christianisme est dépassée, mais, suivant un renversement familier, subsistent à ses yeux les textes littéraires. Bien entendu, la prière, dont je ne dirai rien, puisque Sophie Bache en parlera dans un moment, mais aussi ses drames philosophiques. Et enfin, évidemment, les souvenirs d'enfance et de jeunesse. Lorsque Renan toucha à la narration, écrit Thibaudet, à la fiction, il est réussi en maître. Au demeurant, ce sont ce qu'il appelle des monuments historiques, déserts et morts aujourd'hui, qu'il a poursuivis par devoir professionnel. Entre les deux, toutefois, en 1923, c'est l'année du centenaire de la naissance de Renan, c'est 30 ans après sa mort, en 1892, Thibaudet écrit un long article sur Renan et Taine, comparant ces deux dieux de la Troisième République en ses débuts, et le point de vue est plus modéré, sans doute en raison de la célébration du centenaire, et il dit, en 1923, donc un moment de célébration, oui, de 1823 à aujourd'hui, ce siècle a vécu par Renan. Il juge cette fois que Renan est d'actualité, beaucoup plus que Taine, Et en vérité, ce à quoi il pense, et ça nous renvoie aussi à l'Action française, c'est au livre de Pierre Lasserre, Renan et nous, publié dans les Cahiers verts chez Grasset en 1923. Pierre Lasserre, le meilleur critique de l'Action française, converti au libéralisme avec Renan au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et Renan et Thibaudet, pardon, expliquent en 1923 pourquoi Renan est si important. Renan, dit-il, est la fable de la France. C'est la France incarnée. Renan demeure l'homme dont la conscience a fourni le théâtre d'un drame religieux, drame qui est celui de la France même. Nul, mieux que lui, par sa vie, par son œuvre, ne figure l'évolution de la France, de sa société, son histoire. Le rayonnement de Renan, pour cette raison, est moins épuisé que celui de Taine. Ainsi s'exprime un attachement persistant à celui qui est en quelque sorte la représentation allégorique de la France, la personnification de la France du XIXe siècle. Et on peut, à cet égard, songer à l'affaire de l'érection de la statue à Tréguier en 1903. Renan voterait dans son fauteuil du Collège de France, sous Athéna, et on sait que l'inauguration a été guerrière, en présence d'Émile Combes, d'Anatole France, après les attaques de Brunetière, devant des centaines de gendarmes et de soldats face à de violentes manifestations. Thibaudet est très attentif à ces symboles. Il est l'auteur de 30 ans de vie française, Maurras, Barrès, Bergson, 1890-1920, c'est-à-dire ceux qui ont pris le relais de Taine et Renan. Et ces ouvrages s'inaugurent, bien entendu, avec les 8 jours chez M. Renan de Barrès, point de départ du phare suivant, du successeur de Renan. On sait que Barrès avait aussi envisagé, après ces 8 jours chez M. Renan, un M. Taine en voyage, qu'il ne rédigea point. Renan avec Taine, plus que Taine, c'est donc, à mes yeux, le modèle de l'intellectuel français. Et c'est ainsi que je voudrais le lire. L'intellectuel, on dit qu'il ne recevra son nom qu'avec l'affaire Dreyfus, mais avant cette affaire, Renan, c'est le savant, le philologue, qui intervient depuis longtemps, et on pourrait même dire depuis toujours, hors de son champ de compétences scientifiques, sur les affaires publiques, qui donne son avis dans les revues et les quotidiens, dans le journal des débats et dans la revue des Deux Mondes à partir de 1852, c'est-à-dire très tôt dans sa vie. Et même s'il écrit dans la préface, ce sont les premiers mots de cette préface des questions contemporaines en 1868, l'homme sérieux ne se met d'une manière active aux affaires de son temps que s'il le doit, par la naissance ou par l'élection. Autrement dit, c'est une recommandation à ne pas intervenir dans les affaires publiques pour l'homme sérieux. Or, Renan l'a toujours fait. Dès 1848, il a 25 ans, il est à peine sorti du séminaire, et dans le climat de la Révolution de février, il publie l'un de ses articles les plus radicaux du libéralisme clérical dans La liberté de penser, le 15 mai 1848, contre le néo-catholicisme contemporain. Et il publie, dans la suite de cette année, L'activité intellectuelle en France, réflexion sur l'état des esprits, toujours dans La liberté de penser, en juillet 1849. Ce sont donc des interventions publiques et politiques, et on le signalait tout à l'heure, Renan resta toujours fidèle à cette double portée de ses interventions, à la fois savantes et publiques. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cette volonté d'intervention précède, chez Renan, la notoriété. Que trouve-t-on, par exemple, dans cet article de 1848 ? Voici la statue aujourd'hui. 4 articles résument toute la charte des libertés modernes. Existence de la nation à l'état de personne morale ayant des droits comme elle a une responsabilité, participation de tous au gouvernement à des degrés divers, tolérance religieuse universelle, liberté illimitée de la pensée et par conséquent de la parole et de la presse dans l'ordre spéculatif. Voyons ce que l'Église peut accepter de ce programme. Évidemment, rien, conclut Renan. C'est l'esprit moderne, élevé sans doute en partie par le christianisme et affranchi du christianisme, qui a produit tous les grands mouvements d'émancipation. C'est un texte très fort et c'est un texte très violent, dénonçant le mensonge du catholicisme libéral, la contradiction du néo-catholicisme. Seul le catholicisme orthodoxe, celui de Pie IX, est conséquent et cohérent. Un catholique quelque peu conséquent ne peut être libéral. Écrit Renan, le catholicisme et le libéralisme sont incompatibles. La preuve par le syllabus, l'infaillibilité et tout Pie IX évoqué tout à l'heure. Mais ces interventions très anticléricales de 1848, ne suffisent pas à faire de Renan le dieu de la République. En vérité, il s'agit d'un faux départ, un peu comme celui de Lavis, étudié par Pierre Nora, autre dieu de la République, car Renan a été un républicain tardif du lendemain au même du surlendemain, hostile au suffrage universel, à la démocratie, à l'égalité, sinon à la liberté, bien sûr, comme tant d'autres intellectuels préhistoriques depuis 1848. On le sait, il est candidat de l'Empire libéral à la députation en 1869. Il est partisan de la monarchie constitutionnelle en 1871. L'article qui ouvre Philosophie de l'histoire contemporaine, qui ouvre les questions contemporaines, en 1868, c'est un article intitulé « Philosophie de l'histoire contemporaine » portant sur les mémoires de Guizot, qui avait été publié 10 ans plus tôt dans la Revue des Deux Mondes. Et c'est un texte de défense des libertés dans la méfiance de l'égalité et du suffrage universel depuis le coup d'État de 1851. Dans la préface de 1868 des questions contemporaines, Renan fait un appel à la raison conservatrice contre ce qu'il appelle la fausse idée d'égalité. Et voici le programme politique qu'il définit en 1868. Relever l'amour du vrai et du solide en toute chose, ne rien négliger pour former une nation raisonnable, éclairée, pratiquant la première des abnégations, la plus difficile, la plus méritoire, qui est de ne pas trop tenir à une fausse idée de l'égalité. Fonder une éducation virile et sérieuse, ayant pour base de fortes études spéciales, inspirer au peuple la croyance à la vertu, le respect des hommes savants et graves. Le détourner des révolutions, remède souvent plus funeste que le mal qu'il s'agit d'extirper, faire que chacun aime à rester à son rang par résignation, par fierté, par goût de l'honnête. Voilà ce qui serait la bonne politique. Dans la parenthèse et les points de suspension, il y a 3 pages du même ordre. Voilà un programme conservateur, un programme libéral, dans un plaidoyer pour une monarchie constitutionnelle. Renan est un proche d'Émile Ollivier, et je l'ai dit, candidat au corps législatif en mai 1869 en Seine-et-Marne, candidat du tiers-parti de l'opposition modérée. Et voici le témoignage d'Alfred Maury, son ami, l'homme des rêves, le professeur au Collège de France, qui est le successeur de Michelet dans la chaire d'histoire et morale depuis 1862. Maury explique que si Renan n'a pas été élu, c'est parce qu'il a eu contre lui l'alliance du clergé et des démocrates. Et Maury écrit « Il avait pu voir de près le corps électoral, c'est-à-dire avec le suffrage universel, cette masse mobile, impressionnable, ignorante, crédule, à laquelle revient en dernier ressort la solution des plus graves questions de la politique. » Sa conviction qu'un pays doit être régi par des intelligences d'élite est donc battue en brèche par la souveraineté du nombre dans les sociétés démocratiques où l'opinion, ajoute-t-il, est conduite par les journaux. Cette dure leçon de la campagne électorale et du suffrage universel est tirée dans un article, Philosophie de l'histoire contemporaine 2, si vous voulez, La monarchie constitutionnelle, publié dans la revue des Deux Mondes le 1er novembre 1869, c'est la toute fin de l'Empire, et repris dans la réforme intellectuelle et morale en 1871. C'est un long article, une longue dénonciation de l'égalitarisme venu de la Révolution. La bourgeoisie française, écrit-il, s'est fait illusion en croyant, par son système de concours, d'écoles spéciales et d'avancements réguliers, fonder une société juste. Le peuple lui démontrera facilement que l'enfant pauvre est exclu de ces concours et lui soutiendra que la justice ne sera complète que quand tous les Français seront placés en naissant dans des conditions identiques. Question qui pourrait encore être débattue aujourd'hui à propos de l'égalitarisme. La conviction profonde de Renan est que la France ne peut pas être républicaine, comme le vote du 10 décembre l'a montré. Les républicains ont certes fait des progrès électoraux depuis 17 ans, en 1869, mais Renan ne croit pas que le parti républicain puisse devenir un jour la majorité, les nouvelles classes devenant monarchiques le lendemain de leur enrichissement. Thèse orléaniste. La France, dit-il, a besoin de royauté. La monarchie répond aux besoins profonds de la France, besoin de courtoisie, de politesse, d'éclat, par opposition à l'idéal américain de suprématie du commerce et de l'industrie. Les républicains s'opposeront à tout gouvernement libéral sans pouvoir établir de gouvernement contre le jacobinisme âpre, hargneux, pédantesque qui peut faire la révolution mais non régner car il est toujours instable, capable de détruire, non de construire. Le programme de Renan est donc clairement un programme de monarchie constitutionnelle limitée et contrôlée, de décentralisation, de diminution du gouvernement et de séparation graduelle de l'Église et de l'État. Enfin, il s'agit d'une défense du pacte national transmis, reçu de son ancienneté contre le vote. Et Renan écrit, mais je n'entrerai pas dans ce débat parce que je pense que c'est ce que Pierre Rosanvallon abordera tout à l'heure, mais c'est l'antithèse de qu'est-ce qu'une nation. Une nation est autre chose que la collection des unités qui la composent. Elle ne saurait dépendre d'un vote. Elle est à sa manière une idée supérieure aux volontés particulières. Bref, la République est peut-être idéale, mais la monarchie est réaliste. La société est une hiérarchie. Tous les individus sont nobles et sacrés. Tous les êtres, même les animaux, ont des droits. Mais tous les êtres ne sont pas égaux. Tous sont des membres d'un vaste corps, des parties d'un immense organisme qui accomplit un travail divin. La négation de ce travail divin est l'erreur où verse facilement la démocratie française, mystique de la nation comme corps organique que l'on trouve dans ce texte de Renan. Et bien sûr, cette réforme intellectuelle et morale fait scandale, non seulement par ce premier article, mais par la préface où Renan écrit en 1871, le jour où la France coupa la tête à son roi, elle commit un suicide. Il y a, en 1885, dans un colloque qui avait lieu au Collège de France même, Maurice Agulon parlait de textes de circonstances pour justifier de telles formules. Ainsi, comme la vice encore, il s'agit d'une conversion tardive d'un libéral modéré, partisan de la monarchie constitutionnelle, mais incrédule et pessimiste. Lorsqu'il est candidat au Sénat en 1878, un litige a lieu à propos de sa profession de foi, qui a été écrite près de Marseille par ceux qui l'incitaient à la candidature. Et cette profession de foi a provoqué des protestations et une mise au point de Renan. Et voici sa mise au point dans une lettre, publiée, je crois, dans Le Temps. Une seule phrase relative au passé renferme une nuance inexacte. C'est celle où vous dites que ma pensée a toujours été de travailler à l'établissement de la République. Non, je suis bien un républicain du lendemain, ce qui n'empêche pas que je crois être un ami sincère de la République. C'est pour la France, à la vérité, que j'ai toujours travaillé. on verra de nouveau un litige à propos de ces déclarations de la guerre de 1870 lorsqu'elles seront rapportées par Goncourt par Edmond de Goncourt dans son journal en 1886. Alors, Renan devient le dieu de la République parce qu'il est le prophète de la séparation. Et cette séparation, elle est en effet réclamée de longue date, depuis 1848. Le scandale de la vie de Jésus qui lui a coûté sa chair a été évoqué ici, et je n'y reviendrai pas. Mais ce principe théorique est affirmé tout au long, ne peut être que cette séparation de l'Église et de l'État. Et en cela, Renan est en quelque sorte le prophète du catholicisme du XXe siècle, ce qu'il appelle le néocatholicisme, ce néocatholicisme qui, au fond, s'accommode, comme lui, de l'abandon des miracles, en prend et en laisse dans le dogme, peu soucieux des pratiques extérieures. C'était le point de départ de son abandon de la foi. Il écrivait en 1846 à l'abbé Cognat, « C'est faire tort au catholicisme que de l'accommoder ainsi à nos idées modernes. » C'est le refus du compromis, soit on est orthodoxe, soit on est incrédule. C'est ce compromis qu'il condamne à tout moment, outre qu'on ne le fait que par des concessions verbales qui dénotent mauvaise foi ou frivolité. Tout ou rien, les néo-catholiques sont les plus sots de tous. Ce qui pourrait être dit de tout le catholicisme aux yeux de Renan du XXe siècle à peu près. Ou encore, déclaration tardive dans Patrice, projet autobiographique, le temps est venu où le christianisme doit cesser d'être un dogme pour devenir une poétique. Mais la poétique ne sera peut-être pas réalisée. Je passe assez vite sur le temps passant lui-même, je passe assez vite sur la vie de Jésus et sur ce que je voulais en dire. Et sur, évidemment, dans la vie de Jésus, ce passage auquel Renan se réfère dans la vie de Jésus, mais assez souvent sur le seul message politique de Jésus aux pharisiens qui cherchent à l'entraîner sur le terrain politique. En vérité, Renan est un républicain du 16 mai, où il a vu une tentative du cléricalisme pour reprendre le pouvoir. Et c'est à partir de ce moment-là que son attitude change à l'égard de Gambetta, et non pas, ou un peu avant. Et le texte qui en rend le mieux compte, me semble-t-il, c'est un texte littéraire, c'est Caliban, c'est le drame philosophique qui poursuit la tempête et qui est une fable de l'acceptation de la République par Prospero, au fond, le tyran éclairé. Caliban affirme face à Prospero, c'est l'homme du peuple, « J'y ai droit à cette liberté, les droits de l'homme sont absolus, et c'est un partisan de l'égalité. » « Oui, dit Caliban, mais je suis exploité. Un mortel n'a pas le droit d'en subalterniser un autre. » Et Caliban se rebelle contre Prospero, décrète le bonheur de tous. C'est le démagogue, mais suivant l'espoir de Renan, une fois au pouvoir, Caliban se transforme immédiatement et devient un modéré. Dès qu'il est au pouvoir, Caliban s'écrit « Un gouvernement doit résister, je résisterai ». C'est le vœu de Renan que la démocratie soit forte. L'art d'Ariel est certes vaincu, Caliban se termine par la mort d'Ariel, de l'idéalisme, de l'art, de l'esprit. Là où Caliban peut tout, nous ne pouvons rien, dit Ariel. Mais en démocratie, Caliban se modère, devient prudent, libéral. Caliban, lit-on dans les dernières pages, est déjà le centre du parti modéré par le pouvoir, suivant un phénomène qui sera plus tard analysé par Thibaudet, justement. On croit que le monde change, et c'est toujours la même chose. À la fin de Caliban, qui protège Prospero, le tyran déchu. Et le texte qui tire, un texte non littéraire cette fois, qui tire les conséquences de cette conversion, c'est la préface des mélanges d'histoire et de voyage de 1878. Donc ce sont deux textes qui suivent immédiatement le 16 mai et qui prennent la mesure de cette conversion. Non, je ne l'ai pas mis, excusez-moi. La France avait l'option, écrit Renan, entre deux partis opposés après 1871. Des réformes analogues à celles de la Prusse après Iéna, austères, sacrifiant l'individu à l'État, avec un gouvernement sérieux, un parlement réduit, une monarchie ayant son droit hors de la volonté de la nation, à cette voie prussienne, dit-il, de pénitence et de retour en arrière, la France pouvait préférer la continuation du programme démocratique entamé par l'Empire libéral, à la recherche du bonheur des individus, au risque que la nation, la patrie, la France y perdent chaque jour quelque chose de son autorité et de sa cohésion. Et c'est là que Renan consent à la République. Il est clair que la seconde hypothèse a complètement remporté la victoire sur la première, malgré les deux tentatives de reprise monarchique et cléricale de 1873 et 1877. Renan souligne l'état d'affaiblissement politique et militaire qu'entraîne, à certains égards, la démocratie et ce gouvernement républicain. Mais il y est résigné, je cite, c'est la fin du texte, « Après tout, nous n'avons pas le droit d'être difficiles. Les partis réactionnaires et monarchiques ne nous ont pas traités de telle façon que nous soyons obligés de prendre le deuil avec eux. » C'est ça l'attitude de Renan. Maltraité par les monarchistes. D'abord, il n'y a pas de dynastie disponible, et ayant été maltraité par monarchistes bonapartistes partis réactionnaires, eh bien, il n'y a pas à prendre le deuil avec eux. Et voici ce nouveau Renan, le dernier, la conclusion de ce texte. « Profitons donc et jouissons de l'heure présente. Elle est bonne et douce. Ne boudons pas notre patrie quand elle n'est pas de notre avis. C'est peut-être elle qui a raison. Pauvre France, malo tecum errare, quamcum ceteris recte sapere. » Ce texte suscitera une réplique très virulente à lire de Renouvier, qui parodiera ces mots et conclura « Pauvre monsieur Renan, pour ses sympathies oligarchiques et césariennes, le réfutera, pauvre monsieur Renan, peu de gens seront de votre avis parmi vos admirateurs même, malo tecum dissentire, quam esse tecum incipiens. » Vous le voyez, cette conversion républicaine, Dieu de la République, mais convertie, très peu enthousiaste. Avant, qu'est-ce qu'une nation ? Où il y aura un ralliement à la thèse qu'exprimait Thibaudet, qu'exprimait Berthelot dès 1871. À quelques exceptions près, les textes de l'acceptation sont donc les textes littéraires. De nombreux apologues qu'on peut trouver, je dirais, dans les quatre drames philosophiques. Caliban, j'en ai parlé, et l'abbesse de Jouarre, 1886, mais sans doute aussi les deux intermédiaires, l'eau de Jouvence et le prêtre de Nenni. À la fin de l'eau de Jouvence, Caliban et Ariel sont en quelque sorte réconciliés. Au fond, ce sont quatre drames de la réconciliation du spirituel et du réel, de l'idéal et de la République. C'est Prospero qui parle et qui dit à la fin de l'eau de Jouvence, « Caliban, cesse de parler de la fatuité d'Ariel, il faut qu'il y ait des délicats. Ariel, cesse de mépriser Caliban. » Sans Caliban, point d'histoire. Dans l'abbesse de Jouarre, quelques mots, mélodrame révolutionnaire, écrit dans le bureau du Collège de France, en voyant les travaux du lycée Louis-le-Grand, qui prend la place du Collège de Plessis, qui avait été une prison sous la Terreur. C'est en voyant ces travaux du lycée Louis-le-Grand que Renan est inspiré à écrire ce mélodrame révolutionnaire. C'est une histoire d'amour, d'une abbesse de Jouarre qui a renoncé à l'amour pour entrer dans les ordres et qui retrouve dans cette prison, à la veille de mourir, l'homme qu'elle a aimé et qu'elle a fui dans la nuit qui précède leur exécution. Assigné pour une mort très prochaine, lui dit-il, nous sommes libres. Au matin, après une nuit d'amour, il monte dans la charrette, mais elle est épargnée par un officier républicain, vainqueur de Fleurus. Les nouvelles couches, un nouvel aristocrate. Vainqueur de Fleurus, frappé par sa grandeur. Après cette nuit d'amour, elle est enceinte, honteuse, condamnée à vivre. Mais la fin de la pièce, c'est la réconciliation de l'ancienne France et de la France nouvelle par le mariage de Julie, l'abbesse de Jouarre, avec l'officier qui lui a sauvé la vie, devenu brillant général, qui a combattu contre sa famille, mais l'a sauvé. Et c'est son frère qui l'a convainc d'épouser ce général d'Empire. Chère sœur, il faut en finir. Les temps que nous avons traversés et dont notre devoir est de réparer les ruines ont été comme un interrègne de la nature. Et ce frère défend le concordat, conciliant les besoins anciens et les besoins nouveaux. Nous avons à refaire la France, unissons-nous. Dénouement qui provoquera des ricanements dans la presse. Il y a donc dans ces drames toujours ce thème de la réconciliation après la Révolution, mais en même temps la mort est partout. Prospero meurt. Le prêtre de Némi, qui est le porte-parole de Renan et le porte-parole du libéralisme, est assassiné. Il y a toujours une victime. On assassine toujours celui dont on hérite, dit le prêtre de Némi. Le sacrifice est nécessaire, mais peut-être peut-on remarquer que c'est une femme, l'abbesse de Jouarre, qui est la dernière incarnation de ce nouveau monde. Et c'est la seule femme de ces drames de Renan. Je voudrais terminer en évoquant quelques-unes des images de ce Dieu, de ce prototype de l'intellectuel. Je ne reviendrai donc pas sur la prière, mais quelques-uns de ces leitmotifs qu'on voit dans la littérature qui suivra et qui viennent de Renan, et qui sont tous, il faut bien dire, mélancoliques dans cette acceptation du monde. D'abord, un mot que Thibaudet cite à plusieurs reprises et qu'il attribue à tort à Renan. Il dit que Renan décrit son cerveau comme une cathédrale désaffectée. Mot d'ordre, mot qu'on trouvera partout dans la littérature et qui est donc une fausse attribution à Renan. Mais évidemment, vous comprenez comment un mot comme celui-là aura un tel succès au moment des églises assassinées de Barès, au moment de la séparation. En vérité, c'est un mot d'Alphonse Daudet. Alphonse, non pas Léon, cette fois, pour représenter Renan. On en trouve la source dans le journal des Goncourt, justement, en 1885. Daudet a une originale comparaison. Il dit que la cervelle de Renan ressemble à une cathédrale désaffectée du culte qui contient du bois, des bottes de paille, un tas de choses quelconques, mais tout en conservant son architecture religieuse. Et Goncourt donne cette fois la source dans son journal, qui est Le Maître. La comparaison se trouve dans un article de Remettre, Le Maître, de la Revue Bleue, attribuant le mot à Daudet. Mais ce mot ne peut manquer de rappeler une des formules les plus couramment citées de Renan, toujours approximativement, sur la religion présente comme le parfum d'un verre vide. Autre mot profondément nostalgique. Thibaudet le cite souvent, mais approximativement, le mot étant celui-ci, « Nous vivons du nombre, monsieur, du parfum d'un vase vide. Après nous, on vivra de l'ombre du nombre. Je crains par moments que ce ne soit un peu léger. » Renan prononça cette phrase dans sa réponse au discours de réception à l'Académie française de M. Cherbuliez en 1882. Et on la retrouve partout dans ces dernières années, dans le livre du centenaire, la religion du journal des débats. La religion de M. de Sacy, de son côté, pour expliquer comment il a pu s'entendre avec un catholique assez dogmatique. La religion de M. de Sacy était bien plutôt le parfum qui reste d'une croyance évanouie qu'une adhésion, c'était bien plutôt le parfum qui reste d'une croyance évanouie, qu'une adhésion ferme à des dogmes définis. Ou encore, au début des Feuilles détachées, le livre publié l'année de sa mort, l'homme vaut en proportion, je crois que je les ai mis ces phrases, l'homme, c'est la dernière, vaut en proportion du sentiment religieux qu'il emporte avec lui, de sa première éducation et qui parfume toute sa vie. Les personnes religieuses vivent du nombre, nous vivons de l'ombre du nombre, de quoi vivra-t-on après nous ? C'est un mot que Barrès citera encore en 1922. C'est un mot qui traverse toute cette période et qui en fait, comment dire, cette personnification de l'histoire, ainsi que Thibaudet le décrivait. Encore un mot que je voudrais citer, c'est ce point de vue de Sirius. Renan est le point de vue de Sirius. Renan, c'est le point de vue de Sirius sur le monde. On trouve ça dans toute la littérature, chez Anatole France, chez Valéry. Eh bien, le voici dans une lettre à Berthelot, ministre de l'instruction publique, en 1886. Il lui écrit, quand il devient ministre, pour le mettre en garde sur sa mission. Les accidents les plus graves des choses humaines, quand on se place au point de vue de la terre entière, n'ont pas plus d'importance que le mouvement d'un guépier ou le va-et-vient d'une fourmilière. Quand on se place au point de vue du système solaire, nos révolutions ont à peine l'amplitude des mouvements d'atomes. Du point de vue de Sirius, c'est moins encore. Du point de vue de l'infini, ce n'est rien. Ce point de vue est le seul d'où l'on juge bien les choses dans leur vérité. Et en particulier, c'est le point de vue que Renan, dans l'histoire des origines du christianisme, soutient avoir adopté. Parler des origines du christianisme comme si on écrivait pour une planète déserte. Le point de vue de Sirius, la cathédrale désaffectée, le parfum d'un vase vide, l'ombre du nombre, voilà les images de ce dieu désabusé de la Troisième République. Ce sont des formules constantes de ce Renan qui refuse de s'engager avec de nombreuses variations dont je retiendrai enfin quelques-unes sur ce thème. Personne n'a si complètement raison que son adversaire est complètement tort. C'est dans la vie de Jésus, dans un passage crucial. Ou bien, un ouvrage bien complet ne doit pas avoir besoin qu'on le réfute. L'envers de chaque pensée doit y être indiqué. C'est dans le prêtre de Nenni, sur cette contradiction incarnée par le prêtre de Nenni et qui en fait la victime des foules. Enfin, cette formule très célèbre de la préface des dialogues philosophiques. Ce sont les pacifiques dialogues auxquels ont coutume de se livrer entre eux les différents lobes de mon cerveau quand je les laisse divaguer en toute liberté. Et je terminerai par cette dernière parole qui, me semble-t-il, en fait ce Dieu et qui est souvent citée dans les derniers moments, dans les derniers textes. Qui sait si la vérité n'est pas triste ? Dans la préface des Feuilles détachées, dans le prêtre de Nemi, dans les dialogues et fragments philosophiques. Et enfin, ça fait partie des pensées inédites de Renan, souvent cité après sa mort. Qui sait si la vérité n'est pas triste ? Si la vérité est triste, eh bien, que voulez-vous ? Merci. Thank you.